Et nous voilà de retour pour votre Cinébrunch, mesdames et messieurs. François Berthiaume au micro, en remplacement de Jim Boulay pour cet été avec une programmation estivale haute en couleurs que je partage avec ma collègue, madame Vicky Langlois. Vicky, bonsoir, bon matin.
Et bonjour, bonjour.
Ça va bien?
Ça va super bien, toi?
Oui, oui, oui. Belle petite semaine niveau cinéma. Puis on aura l'occasion de s'en parler avec différents sujets. On va toucher un peu à tout aujourd'hui.
Oui.
Petite discussion en fin d'émission sur le Comic-Con et peut-être toutes ces grandes conventions-là qui font quand même rouler un peu la machine de cinéma, du moins là au niveau populaire, vraiment. Donc, on aura l'occasion d'en discuter un petit peu. Sinon, aussi, on continue notre petite tradition de vous livrer nos tops. Et cette semaine, on y va avec nos plaisirs coupables.
Yes, sir!
Ben oui, pourquoi pas. L'été, c'est pour ça aussi, hein, quand même, là, regarder de petites œuvres qu'on n'adule pas comme étant des grands classiques ou des œuvres cultes, mais quand même qu'on apprécie avec grand bonheur.
Yes, sir, exactement.
Mais bon,
exactement.
Avant ça, on va y aller aussi avec notre volet critique, alors que j'aurai l'occasion de vous livrer mon avis sur Le Roi Lion, version 2019. Et quant à toi, tu as continué, tu as poursuivi ton rattrapage Netflix des dernières semaines.
Exactement. Mais moi, c'est rattrapage de films d'horreur, je vais être bien franche. Là.
Ouh, okay.
Quand t'es une fan de cinéma d'horreur, t'en vois sortir, je parle.
Oui.
Et t'as de la misère à tout suivre, t'as de la misère à tous les voir. Là, avec It qui sort en septembre, tu
exact.
Vois, moi, c'est plus ça que je vais voir au cinéma ou quoi que ce soit, parce que cette espèce de fear of missing out, je l'ai énormément avec le cinéma d'horreur.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Fear of missing out, le fameux FOMO, c'est un phénomène qui est apparu avec les internets et les réseaux sociaux, où les gens ont l'impression qu'ils manquent, qu'ils ratent toujours quelque chose.
Ah.
Et moi, j'allais énormément avec le cinéma d'horreur. Donc, présentement, je n'ai point de temps pour sortir à la maison du cinéma, car je dois écouter des films d'horreur.
Ah, je comprends. Puis on vit quand même une belle époque pour les fans de films d'horreur.
Énormément, énormément.
Ouais. Bon, bref, on aura l'occasion de vous parler de tout cela. Mais d'abord et avant tout, nos petites actualités. Voilà, bel et bien le retour pour le Cinébrunch, volet actualité. Donc, Vicky, qu'est-ce que tu as retenu cette semaine?
J'aimerais qu'on parle du FFM, du Festival des films du monde, si tu permets, François.
Oui, un gros morceau, ça.
Oui, en fait, le Festival Films du monde a annoncé cette semaine qu'il n'y aurait pas d'édition cette année. Et c'est autant étrange que pas surprenant pour les fans qui suivent le FFM. Moi, je suis une fille de Sherbrooke. J'ai étudié à Montréal, mais je revenais à Sherbrooke. Donc, moi, les festivals et les films à Montréal, je les ai pas énormément suivis malgré que je faisais un bac en cinéma. J'ai suivi un petit peu le Festival des films québécois qui se tient en février. Mais sinon, pas tant.
Non.
Et ce festival-là, j'en ai toujours entendu parler assez négativement.
Surtout dans les dernières années. Là.
Surtout dans les dernières années. Je crois que c'est l'an dernier où, si vous vouliez avoir la programmation, vous alliez sur le site Internet. Elle n'était pas affichée sur le site Internet. Vous pouviez la télécharger. C'est un espèce de PDF pas dynamique, gris plate, très rébarbatif. Et les gens se sont plaints. Ils disent vraiment, ce festival-là a de sérieux problèmes. Une espèce de président qui ne veut pas lâcher prise, qui ne veut pas déléguer. Et là, on apprend qu'il est excessivement endetté également.
Oui, oui, ben on le savait déjà depuis quelques années pour certaines des poursuites, mais vraiment, quand on fait le tableau, c'est là que ça commence à faire vraiment peur. Là, j'y vais rapidement. Là.
Vas-y.
De ce qu'on sait, la cause la plus importante en ce moment, ce serait celle de la Banque royale du Canada qui a déposé une requête à la Cour dans le but de saisir la propriété de M. Serge Lozic, le président. Un remboursement de prêt qui totaliserait environ 867 000 $. Entre autres, autour de ça, M. Lozic aurait omis de verser une somme de 35 200 $ à ses créditeurs. Il se retrouverait devant la cour en ce moment contre le cabinet d'avocats Duplessis-Robillard qu'il avait représenté auparavant dans d'autres causes et qui lui demande maintenant des honoraires de 55 600 $. Bref, ça, c'est juste les deux, trois premières poursuites.
On est au-delà du million de dollars de poursuites pour un festival, je le rappelle, pour un festival qui ne devrait pas s'endetter. Un festival en soi, oui, OK, il y a besoin de subventions pour survivre, on n'est pas con, là, OK? Mais reste qu'un festival, c'est à peu près kiff-kiff. Mm-hmm. Tu devrais, en termes de billetterie et passeport, commandite et visibilité, être capable de rembourser. Et les festivals vont avoir énormément de bénévolats, énormément. Donc, sincèrement, ces montants-là sont exagérés. Peut-être un 10 000 par année, comme le Festival Cinéma du Monde ici de Sherbrooke. C'est sûr que c'est pas rentable. C'est sûr que c'est un Festival Cinéma du Monde. Mm-hmm. On se cachera pas. Mais on ne fera pas à croire qu'à chaque année, le festival s'endette de 25 000, 30 000.
Ouais, mais c'est une question de mauvaise gestion. Là.
Énormément, énormément. Et là, on nous apprend qu'il n'y avait aucun film sélectionné. Donc, on nous apprend à peine trois semaines où on devrait annoncer la tenue du festival. Aucun film de sélectionné. Et moi, j'ai pas l'impression que c'était volontaire. J'ai l'impression qu'il n'a juste pas pris ce temps-là cette année pour sélectionner des films, puis il l'aurait peut-être fait à dernière minute. Et ça a été une critique aussi. Dans les dernières années, c'était pas que des films de qualité. C'était pas que des films de qualité.
Ouais. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être une fatigue.
Oui.
Puis, comme tu disais, peut-être un manque de délégation. Exactement. Au niveau de la présidence.
Un festival a besoin d'un comité de sélection pour sélectionner les films. On peut pas juste prendre tout ce qui nous arrive.
Non, tout à fait. Mais juste rappeler justement qu'un des gros coups dans toute cette affaire-là, on remonte à 2014. Cette année-là, tous les bailleurs de fonds du festival, donc les organismes publics et parapublics comme Téléfilm Canada, la SEDEC ou même la Ville de Montréal ont arrêté de verser des subventions au festival. 2014. Je veux pas dire que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à partir en vrille, mais c'est sûr que si toutes tes subventions publiques commencent à te lâcher...
Mais une subvention, c'est difficile à obtenir, mais oui. Quand tu l'as, c'est facile à conserver.
Bon,
moi, je pense que s'ils ont perdu, puis ça, c'est que mon opinion, ça ne concerne que moi, mais s'ils ont perdu, c'est probablement parce qu'ils ne fournissaient pas ces états financiers, ils ne fournissaient pas les preuves de comment l'argent était dépensé.
Ben, ça se pourrait fort bien.
J'ai pas de preuves, mais je suis capable d'imaginer.
Oui, ben surtout que justement, parmi justement tous les litiges dont M. Lozic est en cause en ce moment, plusieurs, dans le fond, concernent justement des... d'un non-remboursement ou justement une absence de financement, comme si justement il y avait des prêts sans retour.
Et voilà.
Puis on sait comment ça marche quand ça s'accumule. Puis si ça s'accumule depuis quelques années, on est quand même en voie de se demander si même l'édition 2020 va finir par arriver.
Bien, justement, Marc Cassivi a écrit un texte sur ce sujet-là hier et qui disait vraiment, c'est le genre comme un restaurant qui dit on va fermer pour mieux vous servir puis qui ne réouvre pas.
Probablement.
C'est un peu ça, tu sais.
Mais qui va vraiment vouloir du Festival des films du monde maintenant? Là?
Exactement.
De toute façon.
Puis on s'entend, moi j'ai un peu une opinion là-dessus dans le sens qu'il y a énormément de festivals de cinéma. C'est génial parce qu'on nous met à accès à des films.
Mais quand il n'y a pas
de comité de sélection, est-ce que c'est vraiment nécessaire? L'an dernier, il y avait des films similaires, quasiment en compétition parce que dans deux salles projetées en même temps. Hey, à un moment donné, les gens, ils veulent voir ces deux films-là. Connais ton public, connais le film.
OK.
Est-ce que ce festival-là est vraiment nécessaire? Je pense que des festivals de films, il devrait y en avoir plus en région. Parce que présentement, il y en a énormément à Montréal. Il faut se déplacer à Montréal. Il n'y a pas de problème. Moi, j'y vais lundi prochain. Je m'en vais à Fantasia lundi prochain.
Mais c'est clair que pour n'importe qui est à Sherbrooke, je ne peux pas croire qu'on n'est pas d'accord pour dire que oui, ça
on
prendrait
en a
peut-être
un,
des festivals plus proches.
Il est plein.
Oui.
Il est plein, il fonctionne full pin. Donc, ça prend. Il y a des festivals en Abitibi, il y en a au Saguenay, ça en prend plus. Alors, peut-être que moins d'argent dans le Festival Film du Monde pourrait être réparti dans des festivals de films de région. Et Sherbrooke est une preuve que ça peut fonctionner.
Puis, même, je sais pas si c'est quelque chose qui est possible, mais je pense à justement ces festivals qui ont déjà un certain prestige à Montréal, comme le Festival du Nouveau Cinéma ou des choses comme ça. Est-ce que c'est possible, pendant le festival à Montréal, de créer aussi d'autres cellules en région? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ben oui, tout à fait.
On parlait de... Il y a des festivals d'humour maintenant qui font ça, hein, qui présentent des spectacles à Brossard, puis sur la Rive-Sud.
C'est un manque d'argent et délégation, c'est parce que, mettons, il faudrait que quelqu'un de Sherbrooke aille les chercher, les approcher, leur dire « Hey, moi, je serais capable de me faire une micro-programmation.
Ah, définitivement.
Voici mes besoins, puis est-ce que vous êtes capable d'y répondre? » Tu sais, il y a beaucoup de gestion à faire, mais moi, je me dis, est-ce qu'on a vraiment, comme tu posais la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un FFM l'an prochain?
Ah, ça, j'en doute fort bien. J'y vais avec, j'enchaîne, une autre actualité, mais on y va, quelque chose de peut-être un petit peu plus léger, on verra. Mais quelque chose de peut-être un peu plus mystérieux, je te parle de Stanley Kubrick. Mesdames et messieurs, au cas où vous ne connaissiez pas, Stanley Kubrick, grand réalisateur, 2001 l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Eyes Wide Shut, et j'en passe. Et depuis quelques années, on en apprend toujours un peu plus sur la vie du bonhomme, là, très exigeant, il paraîtrait, ses plateaux de tournage, très difficile d'approche. Après un premier scénario qu'on avait retrouvé l'an passé sur une histoire de relation entre un jeune garçon et un criminel, bref, on a retrouvé de nouvelles ébauches de scénarios dans la demeure de Stanley Kubrick. 3 scénarios qui auraient été écrits pendant la période de 1954 à 1956. Et là, attention, parce que la période est assez importante. C'est le moment où Stanley Kubrick était en train de réaliser son premier film, qui avait de la difficulté à le réaliser. Et au même instant aussi, il avait de gros problèmes conjugaux connus du public avec sa seconde femme, Ruth Sobotka, qui était une actrice et danseuse. Bref, pourquoi je dis tout ça? C'est parce que les 3 scénarios qu'on a retrouvés, qui sont des ébauches de scénarios, hein, le scénario le plus étoffé durerait 35 pages, l'autre 13, l'autre 7, mais ces 3 scénarios qui parlent d'histoires de couples difficiles et dramatiques. Le premier s'appelle Married Man, l'autre s'appelle Jealousy et le troisième The Perfect Marriage. Donc, l'histoire a circulé justement cette semaine les scénarios ont été repris. Il y a même des extraits qui sont sortis sur Internet et là, il y a certaines personnes où il y a un petit intérêt au niveau d'une branche de cinéphile, qu'on va dire quand même obscur, parce que quand même, qui serait intéressé à voir, en fait, ces scénarios-là. C'est assez amusant, je pense, mais c'est surtout peut-être juste un petit caractère thérapeutique pour Stanley Kubrick.
Oui, c'est ça. Si il avait voulu les raser, il l'aurait fait.
Oui, ouais, c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a d'autres scénarios qu'on a retrouvés de Kubrick, qu'on a voulu refaire plus tard, par exemple AI, que Spielberg a fini par faire. Que là, il y avait peut-être vraiment une réelle intention artistique. Là, pour ces 3 ébauches-là, j'ai plus l'impression que c'est un bonhomme qui avait besoin de se vider le cœur plus que d'autres choses.
Exactement.
Mais bon, c'est toujours bien drôle comme petite anecdote autour d'un célèbre cinéaste. Dis-moi, est-ce que t'avais repéré autre chose cette
semaine?
J'aurais
aimé ça qu'on commence à parler de Lys, parce que là, la décennie finit.
Oui,
Va y avoir des listes des 100 meilleurs films de la décennie. Ça s'en vient.
On approche déjà la fin de 2019.
Ouais, ça s'en vient, il va falloir s'attendre à ça. D'ailleurs, est-ce qu'on considère que dans les films de la décennie 2020, il faut arrêter à 2020? Ça, c'est une question. Est-ce qu'il y a 2020, tu sais? IndieWire vient de sortir sa première liste. Beaucoup ont dit « Hey, attends un peu, là, 2019 n'est même pas fini, calme tes nerfs. » Tu sais, est-ce que vraiment, peut-être que t'as des films qui, on le sait pas, 2019.
Mais en 2019, je veux dire, justement, l'impact que les films vont avoir en 2019 va plus se refléter sur le début des années 2020.
Oui, mais dans la liste, il y a quand même Lady Bird. Lady Bird, que j'ai adoré, je pense qu'il se retrouve dans cette liste beaucoup parce que c'est de son époque. Est-ce que dans 4, 5, 6, 7 ans, on va se souvenir de Lady Bird? Je le sais pas. Mais reste que, à quoi sert une liste? Parce que là, les gens se sont déjà commencé à s'entre-déchirer sur la première liste d'IndieWire, fait que bravo. Bravo pour IndieWire, vous allez faire du clickbait le meilleur possible. Tout le monde est sur votre site.
Voilà, on en parle, la preuve.
Et voilà. Mais beaucoup disaient, Tu sais, les listes, ça sert d'abord à découvrir.
Oui.
Et c'est vrai, parce que je te dirais que du numéro 100 à 80, il y en a la majorité, je les connais même pas.
Ah, OK.
Je suis une cinéphile assez assidue et je les connais
mais
pas.
Mais c'est à 100 films, les meilleurs de la décennie, c'est l'occasion justement d'aller
à l'international,
un peu partout.
Oui, ça, il y a gros des gens qui ont chialé qu'il y a un petit peu trop de cinéma indépendant américain. C'est vrai.
Ah,
mais
okay.
Encore une fois, ça sert à discuter, cette liste-là. Ça sert à débattre. Et je vous dirais qu'un des plus gros débats sur la liste d'Indie World, c'est que le numéro 5, c'est Inside Llewelyn Davis des frères Coen.
Okay.
Et tout le monde dit, ah ouais. Il est bon, mais numéro 5 des 100 meilleurs films de la décennie.
Où je me rappelle pas qu'il y a eu un grand impact.
C'est ça, exactement. Et donc, il y a beaucoup de questions de goût, la réception. Moi, personnellement, The Tree of Life, je déteste ce film. Mais je comprends qu'il doit se retrouver dans ce top-là.
Il se retrouve à quel classement?
J'ai pas noté le classement, mais il est dans les top 20, là, me semble.
Mais dans les premiers, parce que c'est ça la grande question, hein?
Ben, je vais faire deux mentions spéciales. D'abord, je vais faire une mention spéciale au numéro 94 parce qu'il fait 5 heures de long. La dernière chronique de François de l'équipe ordinaire de Cinébrunch nous parlait des films excessivement longs.
Oui.
Donc, clin d'œil, François, dans le top 100, il y a un film qui fait 5 heures de long. Es-tu content? On parle de toi. Et deuxième mention, le numéro 1, que je n'ai pas vu, mais qui est sur ma liste, mais que c'est sûr que je vais le voir à un moment donné, mais je vais être concentrée et prête,
oui.
Moonlight. L'as-tu vu, toi?
Oui, j'ai vu. Oui, je l'avais vu, Moonlight. Je peux pas dire que c'est un film qui m'a laissé un énorme impact. Je reconnais vraiment les qualités du film qui sont indéniables. Il y aurait peut-être un... mais je trouve que le film a surtout une symbolique après tout ce qui s'est passé autour. Hein?
C'est ce que je pense. Fait que, tu sais, Indie Warrior a voulu sortir sa liste avant le temps. Bonne idée parce que ça fait énormément jaser, ça fait énormément de clics. Mais est-ce qu'une liste de top 100 de la décennie est facile à faire?
Non,
c'est
non.
Excessivement difficile. Fait que je pense que vous allez être envahis par les listes d'ici décembre. Moi, j'ai hâte de voir celle des cahiers du cinéma, entre autres, qui va être vraiment franchement intéressante. Et ici, plus proche, nous avons les garçons de Point de vue qui vont nous les faire, leur top 10, leur top 100 de la décennie. Ça va être très intéressant. Mais reste que c'est un sujet de discussion et non un sujet de débat.
Oui, rappelons-le.
Et voilà.
Bon. Alors, enchaînons de ce pas tout de suite avec notre toute première critique de cette émission. Comme on le disait plus tôt à Cinébrunch, justement. Vicky est en rattrapage depuis quelque temps de différents films qui auraient glissé entre les mailles de notre filet des dernières semaines, des derniers mois. Et cette semaine, tu as décidé de t'attaquer à The Perfection.
The Perfection, qui est sur Netflix. Moi, ce que j'ai trouvé spécial, c'est que les films d'horreur sur Netflix souvent font le cas d'articles sur les blogs et les podcasts d'horreur, comme Horreur Québec et ces choses-là.
Mm-hmm.
Narcity en fait énormément avec des beaux titres d'accroche, genre...
C'est toujours le plus effrayant.
Oui, c'est ça. Ce film-là a fait quitter les gens de la salle. Ce film-là, il y a eu des morts. Souvent, c'est arrivé. Puis je les ai tous écoutés, ceux-là, et généralement, j'ai été déçue. The Perfection, on me l'avait conseillé, mais j'avais pas vu de gros titres à son sujet. Puis j'ai fait, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de gros titres, mais on me le conseille? Et finalement, je comprends pas. Je pense que Netflix doit payer pour certains articles dans des blogs et des sites Internet spécialisés en horreur parce que, sincèrement, The Perfection clenche énormément de films d'horreur qui étaient dont les meilleurs puis qui ont donc fait le buzz, comme on dit. C'est sûr que souvent, les films d'horreur, en plein milieu de l'été, on va aller les voir en salle comme It, comme Annabelle. Il va y en avoir. Ceux qui sont sur Netflix, on va moins les écouter parce qu'on va moins se faire des soirées Netflix and chill entre amis pour écouter des films d'horreur. On va aller faire des feux à la plage ou quoi que ce soit. On va moins se faire des soirées de films d'horreur. On a essayé d'en faire une, moi, mes amis, François, et ça a juste tombé
ça
à l'eau
marché.
Parce que personne ne voulait rester dans le salon à écouter des films. Donc, je pense que c'est pour ça que ce film-là a tombé en deux craques parce que c'est excellent.
Okay.
C'est excellent. Tu avais un extrait?
Oui, on lance le ton tout de suite. Attention, ambiance.
Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe?
Oh mon Dieu!
Qu'est-ce que c'est?
J'en ai aucune idée.
Oh non! Qu'est-ce qui se passe?
J'en sais rien du tout!
C'est quoi ce bordel? Regarde ça, ça gigote! C'est plate! Oh, aide-moi! Aide-moi! Aide-moi, Charlotte!
Tu connais la solution.
Alors, ça a peut-être pas l'air de ça. J'ai essayé de trouver le moment qui était le plus explicite au niveau du scénario. Vicky, éclaire-nous. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, l'histoire de The Perfection, c'est une jeune fille qui faisait du cello, je pense que c'est du violoncelle en français,
okay.
Et qui a dû quitter très tôt sa pratique, son domaine, pour aller s'occuper de sa mère malade. Et sa mère décède. Au début du film, sa mère est décédée. C'est le premier plan du film, c'est le cadavre de sa mère, donc ça rentre assez, ça fesse. Et elle décide d'aller retourner à l'école où elle a pratiqué, d'aller revoir les nouvelles étudiantes qui ont joué et qui atteignent maintenant cette perfection de l'artiste. Et durant la soirée, elle a un crush pour la fille qui fait du violoncelle, elle également. Et c'est les deux qu'on entend dans ton extrait, c'est ouais. ça. Je te demanderais par contre de ne pas trop me poser de questions, parce que même sur cet extrait-là, il se passe des choses que je ne veux pas mentionner.
Ah, OK, parfait.
Dans le sens où ce que vous devez savoir, c'est vraiment, c'est une fille qui fait du violoncelle, qui a quitté son domaine et qui retourne dans son domaine.
C'est tout.
Mais après ça, ce qui se passe dans cet extrait-là, je ne veux pas le commenter. C'est tellement bon. Regarde, il y a des problèmes de scénario parfois, surtout en cinéma d'horreur comme dans n'importe quel cinéma,
okay.
où on essaye de nous jouer sur le non-dit, où on va nous jouer sur « tant on va te montrer ça, mais finalement, c'est ça qui s'est passé ». Plein de choses comme ça. Ici, on contrôle son scénario, on maîtrise nos personnages de façon incroyable. On ne fait pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans ce film. Au niveau du scénario et de la temporalité, c'est génial. Après ça, oui, c'est un film d'horreur. Donc, la scène, l'image finale est quelque peu grotesque. Moi, j'ai apprécié parce que j'aime cette forme-là. Par contre, certains pourraient trouver ça peut-être un peu ridicule comme plan final de film.
Mm-hmm.
Mais sinon, le film est très bon. Sincèrement, pour moi, si on faisait mon top 100 de plus tard de mes films d'horreur, celui-ci se retrouverait dedans. Je comprends pas qu'il ait pas fait plus réagir, qu'il ait pas fait plus le buzz. C'est excellent comme film.
Ben, espérons que tu l'aies lancé, le buzz, peut-être un second souffle pour ce film.
J'espère.
Qui est disponible sur Netflix, The Perfection. Enchaîne sans plus tarder avec ma critique de la semaine. Critique que j'ai déjà annoncée en début d'émission, mais j'ai le goût de donner le ton tout de suite. Allez, allons-y. Petit extrait.
Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir.
Alors, ce que vous venez d'entendre, ce sont les sages conseils de Mufasa à Simba. Et oui, Le Roi Lion, version 2019, réalisé par Jon Favreau. Petit nouveau de toutes ces remakes qui sont faites depuis quelques années, là, de grands classiques d'animation chez Disney. Et celui-là, très attendu.
Je pense que c'est le plus attendu.
Je pense
parce
aussi.
Parce qu'on a sorti cette bande-annonce-là avant même de sortir celle-là de Dumbo.
Oui, oui, oh non,
donc,
vraiment,
ouais. On a voulu lancer avec Le Roi Lion, puis après, on a présenté des films. Et Le Roi Lion, c'est regardez où est-ce qu'on va s'en aller.
Ah ouais, oh non, tout à fait, c'est ça. Je pense que il y avait un gros argument de vente. En tout cas, c'est ça qui a été mis de l'avant dès la première bande-annonce, qui était finalement que l'ouverture du Roi Lion, mais refaite avec des prises numériques photoréalistes. Puis vraiment, c'est là-dessus que la campagne, la promo a poussé depuis le début. Vraiment, c'est des animaux et des décors qui sont complètement faits par ordinateur, mais, et je vais le dire tout de suite de ce pas, qui sont extrêmement convaincants. Vraiment, quand tu vas voir le film, il y a certaines séquences, le début, où tu as l'impression de regarder un documentaire animalier. Ce qui m'a pas empêché justement d'avoir d'être un peu triste par rapport à ça, bon, c'est rien par rapport au film, mais je me dis quand même dans quelques années, peut-être que c'est la technologie qui va nous permettre de voir certaines espèces qui seront plus vivantes à ce moment-là. Oui. Mais bref, je m'égare un petit peu. Le film, bon, on peut le spoiler parce que c'est exactement la même chose que l'original. C'est la même histoire, donc Simba qui devient roi de la savane, son oncle Scar, blablabla. Vraiment, le premier film durait 1h30, celui-ci dure 2h.
Oh, ah ouais?
30 minutes de plus et il n'y a aucune nouvelle scène ajoutée. Ouais.
Fait que c'est juste plus long.
C'est exactement
ça. Il marche longtemps à chaque fois.
Non, mais tu ris, mais c'est exactement ça. C'est des scènes qui sont juste simplement allongées. Par exemple, au tout début du dessin animé, on avait une petite souris qui se promenait et tout d'un coup, Scar mettait sa patte dessus. C'était l'introduction de Scar. Ben là, on va avoir un ou deux minutes vraiment où on va juste voir la souris promener un peu partout, tout ça. Et ces moments-là sont en quelque part assez bluffants et il y a un petit côté contemplatif, ça, qui est assez appréciable. Timon et Pumbaa aussi sont vraiment très drôles. On est vraiment Seth Rogen, un ressort comique qui améliore certaines blagues du premier. Et voilà, j'ai fait le tour des points positifs du Roi Lion version 2019 parce que pour le reste, j'ai été non seulement déçu, mais assez insulté aussi. Bon, je suis pas naïf, je le sais bien que la stratégie de Disney en refaisant ses grands classiques, c'est d'aller toucher, titiller la nostalgie de tout le monde pour s'assurer des billets en salle. C'est juste que là, vraiment, la façon dont ça a été fait, c'est affligeant. Tout simplement, cette obsession dans la mise en scène, d'avoir voulu rendre ça réaliste, ça rentre en contradiction avec tout plein d'éléments de l'original. Puis ça en donne une version vraiment diluée, dénuée de toute émotion. Et ça, c'est assez dommage. Vraiment, comme je dis, 30 minutes de plus, ben, on a brisé le rythme. Il y a des scènes que les effets comiques ne marchent plus. La volonté d'avoir voulu rendre ces animaux-là réalistes, ça enlève toute l'émotion. Il n'y a aucun trait humain qui passe sur le visage, surtout des lions, et c'est là que c'est assez affligeant, parce qu'ils sont complètement stoïques. Les performances vocales ont beau être pleines d'émotions puis de tempo, on a l'impression d'un mauvais acteur, justement, qui n'a aucune expressivité.
Bien, sur ça, il y a une semaine ou deux, on s'était parlé off mic du Roi Lion, puis tu m'avais dit, moi, il ne me tente pas, parce que j'ai hâte, c'est beau. Puis toi, tu m'as dit, moi, il ne me tente pas, parce que tout est beige, on dirait un film National Geographic. Puis j'ai fait, ah, c'est vrai, j'ai pas vu ça de même. Et effectivement, c'est un point, mais il me semble que tu sais, ça l'amène autre chose. Par contre, as-tu vu ce que je t'ai envoyé dernièrement par Messenger? Il y a quelqu'un qui s'est amusé à reprendre cet aspect National Geographic et y a posé de la couleur et c'est magnifique. Et j'ai fait « Ah, là, je comprends ce que François essayait de me dire » dans le sens où on aurait pu être National Geographic sans toutefois perdre l'éclat du Roi Lion qu'on a totalement perdu.
C'est qu'on on a anthropomorphisé à moitié ces animaux-là. Donc, oui, ça fait étrange. Je veux dire, on veut rendre ça réaliste, mais il y a quand même des séquences musicales. Donc, ça rentre en contradiction. Ça fait que les séquences musicales sont beaucoup moins belles. Bref, on a perdu la poésie de l'original. On a perdu l'émotion. On n'a même pas essayé de rajouter quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle chanson de Beyoncé. On n'a même pas essayé de l'introduire, de l'insérer dans le film. On fait juste la patcher par-dessus, extra-diégétiquement. Pendant une séquence où ça donnait bien, sans plus. Beyoncé qui a une voix beaucoup trop mature comparée à Donald Glover. Donc, ça fait un Simba et une Nala qui ont l'air un peu dissonants. Bref, tout est assez décevant dans ce Roi Lion version 2019 que je ne recommanderais pas à personne. Honnêtement, je pense qu'on peut facilement passer au travers. Moi, la question que je me pose, c'est au final, on a l'intérêt d'aller le voir en ce moment, mais dans quelques années, quand on va vouloir montrer justement le Roi Lion à quelqu'un, on va montrer lequel?
Probablement le coloré.
Et c'est ce que je me dis. Alors, on se revoit. Deuxième partie, tout le monde. We'll be right back. Et vous voilà de retour, mesdames et messieurs, à votre ciné-brunch saison estivale. François Bertillon au micro, accompagné de Vicky Langlois. Bon, on a terminé la première demi-heure de manière un peu abrupte. Je vous parlais du Roi Lion et, bien entendu, vous l'aurez peut-être entendu, mesdames et messieurs, je ne vous recommande pas un tel film, mais je sais bien quand même, Disney est rendu, comme on dit, too big to fail et le film a déjà enregistré le deuxième meilleur démarrage de l'année après Avengers Endgame. Donc, nul doute que beaucoup de monde iront le voir et... C'était aussi cette fin de semaine, la convention de San Diego, le Comic-Con le plus attendu de la planète, certainement. C'est là qu'on y fait beaucoup d'annonces qui sont très chères aux geeks de ce monde et tout.
Geek.
Ce qui m'a inspiré pour notre segment top, de s'intéresser à nos plaisirs coupables. Non pas que... le Comic-Con n'est qu'un refuge de plaisir coupable. On peut y trouver des objets de qualité. Bon, je pense que oui, moi.
Ben oui, non, mais moi, en fait, j'aurais pas dit que le Comic-Con est un plaisir coupable.
Ben c'est ça, en effet.
Qu'est-ce qu'un plaisir coupable pour toi, François?
Ah, c'est là qu'on rentre dans le sujet
intéressant. On y va, on plonge.
On y va tout de suite. Ben, je pense qu'un plaisir coupable, ben déjà là, c'est ça, il faut que tu te sentes coupable de l'aimer. À la base, allons-y avec ça. Pour que je me sente coupable d'aimer quelque chose, bon, après, il faut que je reconnaisse les défauts du film. Il faut que je reconnaisse que le film n'est pas objectivement bon et que c'est surtout ma subjectivité sur l'objet qui fait que ça...
Comme moi avec Tree of Life. Je l'haïs pour mourir, mais objectivement, il va être dans le top 100, je le sais, mais à maudit que je l'haïs, ce film-là.
Oui, ben tu vois, ça, c'est comme à l'inverse. C'est comme pas un plaisir coupable, c'est...
Elle l'haïs.
Tu l'haïs, mais tu comprends pourquoi d'autres l'aiment.
Et voilà.
Exactement.
Ben, je comprends l'essentiel du film, l'importance du film dans une cinématographie.
Oui, oui. Et bon, c'est peut-être justement parce que cette année au Comic-Con, il y a eu le passage de autre Terminator, qui est sûrement le plaisir coupable de plusieurs personnes au nombre de flops qu'ils ont fait.
Et un plaisir coupable serait l'inverse de mon Tree of Life, serait ce film qu'on apprécie mais qui ne devrait pas exister.
Entre autres.
Oui, parce que moi, c'est beaucoup de tout ça. Et je pense que le plaisir coupable, je ne sais pas pour toi, mais il est souvent rattaché à la nostalgie. J'ai demandé sur mon Facebook les plaisirs coupables et rarement, c'est des plaisirs coupables que tu as écouté la semaine passée pour la première fois.
OK, parce que tu te sentirais coupable de quelque chose qui est devenu quoi, trop juvénile ou immature?
Il y a un attachement dû à le moment où tu l'as écouté ou avec qui tu l'as écouté ou c'est un film de ta jeunesse. Beaucoup, c'est des films d'enfance ou c'est des films que j'écoutais avec mon père. Tu sais, souvent, le plaisir coupable est rattaché à quelque chose de nostalgique bien plus que le film en lui-même. Mais j'ai hâte d'entendre ton top 3 justement pour ça.
On verra bien.
Moi, c'est beaucoup ça. Et quand j'ai posé ma question sur mon Facebook, parce que je cherchais. Il y a quelque chose qui est ressorti aussi, je fais encore une autre digression, mais il y a quelque chose qui est ressorti, c'est que les cinéphiles ont peu de plaisir coupable parce que souvent, ils assument énormément leur amour pour le cinéma et ils vont trouver une raison d'aimer. Mais la majorité des films qui ont été nommés, c'est beaucoup des films qui ont écouté dans leur enfance et qui sont restés accrochés.
OK. Parce que justement, on les assumerait peut-être moins.
Exactement.
Ouais. Je comprends où c'est que tu t'en vas. Puis je pense que ça va être intéressant à ce moment-là. On devrait pas aller vraiment dans les mêmes directions. Peut-être un peu.
On
verra, ouais. Puis tu t'accroches comme ça. Pendant que j'y pense, là, je parlais justement Comic-Con, toute cette fin de semaine, des plaisirs coupables qu'on peut y retrouver. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir la bande-annonce de Cats, mais pour moi, c'est un plaisir coupable indéniable.
Oui, je comprends. Oui, mais non, parce que j'écoute pas de bande-annonce, mais je l'ai vu passer.
Un plaisir à regarder, du moins cette bande-annonce, on verra pour le film. Alors, on se jette dans le bain tout de suite.
Oui.
Allons-y, numéro 3, tes plaisirs coupables, qu'est-ce que t'as mis numéro 3?
En numéro 3, et là, faut vraiment être très 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 précis, Evil Dead 3, Army of Darkness.
Ah, OK.
Parce qu'il faut le sortir de son contexte du trio. Dans le sens où quand on l'écoute, dans son trio, ce film-là a une certaine qualité, a une certaine rigueur. Mais moi, je vais vous faire mon historique. On a le temps aujourd'hui. Je vais vous faire mon historique d'Evil Dead. Moi, j'avais Evil Dead, j'ai écouté ça avant de déménager. J'ai déménagé avant ma maternelle. Donc, ça vous dit que j'écoutais Evil Dead avant même d'aller à l'école. Okay. Et c'était Opéra de la Terreur, oui. Enregistré sur un Vidéotron débrouillé par ma mère entre deux films étranges.
Ah, une des meilleures manières de le regarder.
Le premier film, c'était Conan. Le deuxième, c'est Opéra de la Terreur. Le troisième, c'est genre La Dame en rouge, La Femme en rouge, quelque chose comme ça. Okay,
okay.
Donc, une excellente cassette. Merci, maman. Merci, maman. Beau trio de films. Et moi, c'était Opéra de la Terreur. J'en en manquais pas un. Très, très fan, mais je sais pas que ce film-là, c'est un film culte. J'ai même pas 5 ans, tu sais, on s'entend, là.
Ben ouais.
Fait que je connais pas le côté culte de ce film. Et une fois, j'arrive au club vidéo, tu reconnais un peu cette situation, je loue un film, et c'est L'Armée des Ténèbres. Et là, je fais, voyons, ça a l'air du film. Mais
ouais.
Si tu te souviens des films Evil Dead 2 et 3, les débuts font une récapitulation sans être tout à fait la récapitulation.
Okay, ouais,
et là,
ouais.
Je comprends pas ce que je regarde. Mais voyons, c'est comme ce film-là, mais c'est pas ce film-là. Et là, je suis à peu près début de mon secondaire, il n'y a pas ça Internet, il n'y a pas ça IMDb. Fait que je comprends pas ce que je regarde et je dois être confrontée à ce film-là. Et je me surprends à l'aimer. Malgré le fait qu'il ne fit pas avec le film 1 que je connais, j'apprécie énormément ce film-là et je le garde dans mon cœur.
Parce que celui-là est vraiment plus...
Ah, il est loufoque!
Oui,
il est loufoque,
ça, exactement.
Totalement.
Ouais.
Et là, la fin, c'est un bijou de fin quand il se ramasse, il retourne dans notre univers à nous. Et voilà, c'est génial. L'Armée des Ténèbres, là, numéro 3. Evil Dead, numéro 3. Et je me donne d'affection pour Evil Dead 3. En sachant qu'il n'y a pas de lien ou des liens semi-nébuleux.
Mm-hmm.
Et un jour, je me ramasse avec des amis, là, je suis en secondaire 5, je m'en souviens, on est en voyage à New York, puis on se met à jaser de ça, puis je fais « OK, le monde connaît ces films-là.
Ouais, »
Comme
ouais.
« OK, il y a des gens qui connaissent ça, puis qui connaissent les vrais titres, parce que moi, c'était Opéra de la Terreur, là, tu sais, je veux dire.
Ouais, »
Ils connaissent, c'est ça.
Ça,
ils connaissent ce film-là. Et là, on se met à discuter, puis là, je leur dis qu'il y a un 3, mais là, moi, je ne sais pas que c'est un 3. Je dis « Il y a un film qui est collé, puis il me dit « Oui, c'est le 3. » J'ai dit « OK, fait qu'il y a un 2. »
Puis là, tu découvres...
Et là, je découvre le 2. Et là, il y a comme tout un pan de mon univers cinématographique qui a été amené par Evil Dead 3. Vraiment, Army of Darkness. Mais tu peux pas... Tu fais écouter ce film-là sans donner contexte ni rien. Le monde va faire, mais pourquoi tu me fais écouter ça? Il y a des squelettes poches, puis il y a des monstres par rapport, puis pourquoi qu'il manque un bras à lui? Puis, tu sais, le film est censé se tenir en soi seul.
Puis ça marcherait pas.
Ça marcherait pas, mais ouais. il se ouais, tient pareil, vrai. Dans le sens qu'il s'appelle pas Evil Dead 3, il s'appelle Army of Darkness.
Ouais.
Puis il y a pas énormément de coffrets avec les trois films. Il y a beaucoup de coffrets avec les deux films, mais pas beaucoup avec les trois films.
Ah, OK, je savais pas ça, mais en même temps, oui.
Donc, Army of Darkness est censé être un film seul en soi. Et pour ça, c'est un plaisir coupable. Ouais. Si t'es capable de l'apprécier seul en soi, sans
en
avoir
soi.
Aucun contexte. C'est génial,
c'est,
ce film.
Okay. Ah, je vois.
Si t'es assis
okay.
devant ce film-là, là, quelqu'un qui connaît pas du
ouais.
tout ça pourrait apprécier, mais se demander pourquoi. Et là, tu pourrais y amener plus de kaki dans tout ça.
C'est une porte d'entrée, un plaisir coupable qui t'ouvre la porte à.
Ah, tellement. Mais c'est
bijoux.
Vraiment celui-là qui est numéro 3, Army of Darkness.
Ben, tu vois, moi, mon numéro 3, on va rester dans les mêmes eaux, cinéma d'horreur, dans les mêmes époques aussi. J'avoue que j'ai... Bon, ça serait peut-être un plaisir coupable global, mais moi, la franchise Nightmare on Elm Street, j'aime beaucoup.
Le numéro 3 est un de mes films favoris.
Ben, il y en a là-dedans qui sont bons, réellement bons, je pense. Le 1, le 3, même New Nightmare,
oui.
qui a des choses intéressantes. Mais il y en a d'autres, justement. Je les mélange. Là, il y en a justement qui sont tellement banales que j'ai l'impression que c'est le même film. Mais en 2003, il y a eu Freddy vs. Jason. Et là, c'est un plaisir coupable parce que c'est tout ce qu'il y a de plus stupide dans
oui.
le cinéma slasher. Mais assumé, je pense, quand même.
Oui.
En quelque part, là, pour vrai, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, on regarde ça. Et c'est tout ce qu'il y a tout ce qu'il y avait de plus cliché au début des années 2000. La grosse musique rock un peu Evanescence, les couleurs bleues de nuit, tout ça. Les petites répliques de Freddy qui sont toujours savoureuses. Vraiment, on a mis le paquet pour un film qui est un grand n'importe quoi, qui vraiment réduit les deux personnages là, en tant qu'entité d'horreur parce qu'ils
oui.
deviennent ridicules.
Ah, c'est des
totalement.
Archétypes!
Ah oui, non, c'est ça. ça, autant Jason que Freddy, mais c'est tellement amusant à regarder. C'est vraiment, là, il y a le personnage, je pense que c'est le policier dans le film, c'est le même acteur, un des acteurs qui jouait dans le premier Scary Movie, film de peur.
Okay.
Et je sais pas si c'était voulu comme une manière justement de vouloir spécifier ce côté-là très satirique, parodique, mais c'est vraiment l'impression que j'ai devant ce film-là et je le recommanderais pour n'importe qui veut juste passer une soirée entre amis à rire, à se moquer du film. Vraiment, c'est dans ce genre-là qu'on appelle peut-être un nanar,
oui,
mais avec du budget et peut-être assumé par moment. Mais vraiment, moi, Freddy vs. Jason et certains films de la saga Nightmare on Elm Street de vrais plaisirs coupables.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Numéro 2 pour toi?
Mon numéro 2, Ernest et les monstres.
Ernest et les monstres.
C'est le Ernest que personne connaît, mais encore une fois, la fan d'horreur en moi adore Ernest et les monstres.
Est-ce que, juste savoir, est-ce que c'est le titre original?
Je pense qu'en anglais, c'est Ernest Scared Stupid. J'ai noté, mais j'avais jamais entendu.
Je ne connais pas plus.
C'est que Ernest, connais-tu le personnage d'Ernest?
Non, je ne connais pas.
Ah, OK, c'est ça. C'est pour ça que tu es...
Oui, oui.
Ernest, c'est un personnage américain. En fait, c'est un bonhomme qui faisait de la publicité. C'est un acteur, okay, faisait de la publicité en tant qu'Ernest, un espèce de gaffeur, un espèce de Mr. Bean qui parle un petit peu. Il y a plus de mots, il y a plus de langage, Ernest, mais il est très Mr. Bean.
On est dans quelle année à ce moment-là?
On est début 80. Okay. Début 80.
Okay.
Et on a décidé de sortir ce personnage-là et d'en faire une série de films. Donc, Ernest à l'école, Ernest à la prison, Ernest au camp de vacances, Ernest ayant fait des affaires, notre Ernest.
OK. Un peu comme Martine.
Exactement. Ah! Et un des Ernest, c'est « Et les monstres ». Mais je sais pas pourquoi, mais quand j'étais jeune, tout le monde parlait d'Ernest à l'école, Ernest sort de prison, mais personne parlait d'Ernest et les monstres, puis il passait plus à télé.
OK.
Puis il était pas disponible dans mon club vidéo. Et j'avais vraiment des souvenirs de ça parce que c'est Ernest qui s'attaque à des trolls qui sont vraiment affreux, mais très bien faits, là, tu sais, vraiment les gros costumes. Et on se rend compte que la seule façon de tuer des trolls, c'est de leur garrocher du lait. Ah. Fait que là, c'est les petits gobelets de lait qu'on avait au primaire qui garochent sur des trolls géants pendant l'Halloween. En tout cas, c'est n'importe quoi, ce film. Moi, j'adore. C'est un mélange d'humour grotesque. Il y a un gros fanbase sur le film Troll et Troll 2. C'est similaire à ça, mais t'as Ernest en plus qui est Mr. Bean Goofy avec des grosses faces et tout. Donc, moi, Ernest, c'est les monstres, mais je pense que tu peux écouter ça avec tes enfants, puis il y aurait quand même...
OK, parce que c'est ça, je suis en train de me demander au final. C'est ça, c'est un film...
C'est un film familial. C'est un film familial. C'est juste que, tu sais, c'est les mêmes blagues dans Ernest à l'école qu'Ernest à la prison, qu'Ernest et les monstres, mais dans celui-là, t'as des gros trollettes, fait que c'est drôle en plus.
Ah, OK, OK, ben, c'est ça. C'est le plaisir de l'effet spéciaux un peu manqué.
Oui, puis mais l'effet costume aussi, ouais, hein? On en a plus beaucoup de ça, ces effets costumes-là. Puis, tu sais, c'est un peu Goonies, là, tu sais, des enfants qui vont sauver leur ville attaquée par des trolls. Tu sais, les adultes sont totalement inefficients, fait que c'est les enfants qui vont sauver leur école et leur ville, mais avec l'aide d'Ernest, qui est leur concierge à l'école, un peu stupide.
OK. T'sais? Ah bon. Donc, Ernest et les monstres.
Ernest et les monstres.
Numéro 2. Je nous écoute parler depuis quelques minutes et je me rends compte peut-être qu'il y a une certaine, peut-être pas vulgarité qui revient d'un film à l'autre, mais un peu là-dedans. Du moins, Army of Darkness, les films Nightmare on Elm Street, des fois, il y a un peu de ça. Robert Rodriguez, qu'on connaît pour des films aussi loufoques qu'Espion en herbe, ou Sharkboy et Lavagirl, ou même Planète Terreur, ou bref, tout ça, ça aurait quasiment pu en être des plaisirs coupables. Mais moi, je veux parler de Machete.
C'est ça, j'allais dire, je voulais pas te couper, j'espère qu'il va nous parler de Machete.
Ben oui, ah.
Moi aussi, puis les gens ont pas aimé le 2, puis j'ai fou l'aimé, puis je suis sortie du cinéma tout énergisé comme moi.
Le 2, là, moi, je dis, regarde-le comme si c'était un Austin Powers mexicain.
Exact!
C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Mais surtout le 1. Moi, j'aime bien le 1.
Oui, quand même.
Et vraiment pour le côté très pastiche des films d'exploitation des années 70. Mais c'est une esthétique que j'aime beaucoup. Et toute cette manière-là de toujours désamorcer l'archétype du héros des années 80 me fait rire, là. Mais vraiment, public averti, il faut le dire quand même. J'ai réécouté le film cette année. J'ai voulu le faire découvrir à des amis, tout ça. Et les réactions n'ont pas été si positives. Il faut dire, justement, quand je l'ai réécouté, c'est sûr que si on est hors contexte, après... 2017, après Me Too, tout ça. Tu regardes le film et ça semble quand même tiré à gros traits. Je dis justement qu'on est hors contexte, parce que vraiment, on est au niveau du pastiche avec ce film-là. Mais j'ai l'impression que, bon, peut-être sa pérennité serait peut-être un peu mise en danger pour certains moments. Je pense à notamment une scène qui met en vedette Lindsay Lohan, sa mère, Machete, un
dans
ménage à trois.
Dans la piscine,
oui, exactement. Bref. Mais moi, pour moi, c'est vraiment, là, c'est comme c'est toutes ces mimes-là qu'on voit de Chuck Norris. Moi, Machete me fait rire pour sa surpuissance, sa survirilité.
Je comprends ton point sur Me Too, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment... moi, je pense que Machete passe par l'histoire parce que le deuxième, les gens l'ont vraiment pas aimé. Puis on dirait que ça a comme tué le brillantissime du premier, alors que moi, c'est ça que je veux d'un cinéma d'exploitation, c'est ça que je veux d'un cinéma grotesque. Je trouve que c'est un cinéma qui se regarde.
Ouais, mais c'est qui est quand même pas accessible. C'est peut-être ça aussi qui l'a plombé, un peu comme Planète Terreur, les films Grindhouse, là, c'est plus... on va aller chercher un public plus restreint, on va le dire comme ça. C'est toujours un petit peu plus compliqué.
Ouais.
Mais non, Machete, c'est quand même un très bon film, un beau moment, très drôle. Et comme on le dit, autant le 2 aussi, qui met quand même en vedette un Charlie Sheen en président des États-Unis.
Oui!
Donc, niveau mauvais acteur dans un rôle génial, voilà, vous l'aurez entendu. C'était mon numéro 2, Machete, donc. Et toi, on y arrive, ton numéro 1, ton plaisir coupable ultime.
Nostalgie?
Oui.
Film d'enfance.
On était là-dedans les deux premiers. Est-ce qu'on l'est encore?
Je le suis encore.
Oh!
Film qui n'aurait pas dû être.
Ah!
Qui a un peu détruit une série encore une fois. Les Tortues Ninja 3.
Ah! les vieux des années 80.
Oui!
Ah,
mais oui. Celui avec qui se ramasse au Japon impérial.
OK. Oui,
moi, quand
je dis
que j'aime ce film-là, tout le monde me regarde. Ben voyons donc. Non, on aime le premier ou le deuxième limite parce que Ice.
Ouais.
Mais pas celui-là. Puis je suis comme, mais oui, il est excellent. Mais c'est sûr que, tu sais, encore une fois, nostalgie, c'était la cassette qu'on avait chez nous.
Ah.
Moi, j'avais deux cassettes. J'avais l'orange, c'était les trois petits ninjas. Puis la jaune, c'était les trois Ninja Turtles. J'avais la jaune ou l'orange. C'est ça qu'on écoutait, tu sais. Fait que moi, c'était... Quand ils vont au Japon impérial, j'adorais ce film. Je comprends pas pourquoi les gens ne l'aiment pas plus. J'ai réécouté la saga des Tortues Ninja. Il y a un coffret avec les trois premiers plus un dessin animé. J'ai écouté les trois... Et quand j'écoutais le premier et le deuxième, j'étais comme, mais voyons, pourquoi vous aimez pas le troisième? Il est pas moins kitsch, plus kitsch. Il est pareil. Il est pas plus mystérieux, il y a pas plus de suspense. C'est kitsch, c'est mauvais. Un, deux, trois, pareil.
Ouais, ouais. Ben, je pense que c'est un cas particulier sur les Tortues Ninja, parce que surtout cette série-là, quand la nouvelle version a été faite il y a quelques années, j'ai vu beaucoup de monde, de mauvaise foi, on verra, mais qui décriait un peu ces nouvelles versions-là, comme quoi les Tortues Ninja étaient un peu mal faites, laides, un peu ridicules.
Ben, je vais quand même te couper deux secondes, je te fais un lien avec Le Roi Lion, c'est la même affaire.
Oui, ben c'est peut-être un peu la même affaire, mais même là encore, je trouve... que même les premiers Tortues Ninja, je vous dis, c'est quand même des... c'est des reproches
colorés,
qu'on peut...
Ils sont plus colorés. C'est la même affaire que le Roi Lion. Oh oui, quand ils sourient, ils ont des belles grandes dents blanches. Ah oui, ils sont plus colorés.
OK, ils ont peut-être juste mal vieilli à mes yeux.
Peut-être, mais les remakes, c'est la même affaire, le même effet que le Roi Lion. Ils sont plus ternes. C'est des gros beefs, bien musclés. On voit pas beaucoup leurs yeux. Ils manquent d'expression du visage. Les premiers Tortues Ninja avaient beaucoup plus d'expression du visage. Beaucoup plus goofy, beaucoup plus BDS qu'avec des grands yeux.
Les scènes d'action sont molles,
Les scènes d'action sont très molles. Ça, j'en conviens. Moi, je te parle vraiment des personnages.
Du design.
Du design, de la maquette de la Tortue Ninja.
Okay.
Mais reste que l'histoire du 3 est aussi bonne / mauvaise que les deux premiers. Et pourtant, celui-là n'est pas aimé. Alors, c'est vraiment un plaisir coupable ultime dans le sens où à chaque fois que le monde parle de nostalgie, c'est les deux premiers puis ils veulent pas prendre le troisième et je vais me battre bec et ongle pour dire que le troisième Ninja Turtle est aussi bon.
Mais je vois justement que ça vient autant de chercher que le Roi Lion vient stimuler mes instincts de mort.
Exactement!
Je vois. Ah, OK, ben écoute...
Je vais voir si t'es aussi passionné avec ton numéro 1.
Ah, oui. Je l'aime, je l'aime tellement que j'ai trouvé un moyen d'en faire un travail universitaire, tellement je voulais parler de ce film-là. Moi, 1980. George Lucas a fait l'année d'avant Star Wars, Un Nouvel Espoir. Il avait fait ce Star Wars-là parce qu'il n'avait pas été capable d'adapter une bande dessinée, un serial, qui était ces petits épisodes-là qu'il y avait dans les années 40-50. Il n'avait pas été capable d'avoir les droits, donc il a décidé de faire son propre univers qui a donné Star Wars. Star Wars a relancé la popularité des univers de science-fiction, et donc les 10 droits de cette dite bande dessinée, eh bien, quelqu'un les a récupérés pour finalement vouloir faire un film qui capitalise sur Star Wars. Donc, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue là-dessus. Je parle de Flash Gordon, film de Mike Ogilvie.
Really?
Oui, qui a été repopularisé par les deux films TED il y a quelques années avec Mark Wahlberg qui en faisait des petites blagues, tout ça. Mais vraiment, il faut voir Flash Gordon. C'est un plaisir kitsch. C'est tout ce qu'on on idéalise dans la pop culture des années 80.
Fait qu'il faut le voir avec un cœur d'enfant et non avec notre cœur de Marvel de 2000.
Ah ben oui, puis quoique même là, je te dirais que depuis certains films comme Thor Ragnarok, on peut avoir un plaisir à regarder Flash Gordon et avoir les inspirations et les influences.
Oui,
parce que
oui,
esthétiquement, il y en a beaucoup. Qui ont été repris de Flash Gordon, qui est vraiment un univers de science-fiction disjoncté, des hommes-oiseaux dans l'espace avec des Robin des Bois sur une autre planète. Flash Gordon, qui est le quart arrière des Jets de New York, qui se ramasse avec une jeune journaliste et un scientifique russe dans une fusée qui va se ramasser dans une autre galaxie où il devra se libérer du joug de l'empereur Ming qui règne sur la planète. Empereur
Mais c'est
Ming,
génial.
C'est vraiment, comme je disais, tout ce qu'on adore du kitsch des années 80. Le film est ridicule, les acteurs sont mauvais, mais les costumes sont fantastiques. La musique par Queen avec la chanson, le thème, là, Flash! Bref, j'arrête là.
Hey, on est passionnés pour nos numéros 1.
Ah oui, 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 on les aime vraiment. Mais parce que je pense que justement, c'est des films que on sait que ça attirera pas les gens au premier abord. Je pense que c'est des films peut-être que c'est ça, il faut pousser pour montrer vraiment qu'il y a un charme derrière là, tout ce peut-être ce côté là, vieillot grotesque, derrière là, les peut-être le côté très bonbon divertissement. Je pense que c'est vraiment des plaisirs coupables. Il faut leur donner une chance, puis quand on se livre,
on
trouve ça fantastique.
Puis Gann, on pas de transition, plaisir coupable, Gordon, film des années 80, Comic-Con.
Oui, on y va vite, rapidement. Là. On y va avec le Comic-Con cette année. Très particulier parce qu'il y a beaucoup de studios qui se sont absentés. Warner Brothers a été là, mais simplement pour sa chapitre 2, It. On a profité pour livrer quelques petites anecdotes, dont Jessica Chastain qui a dit que le film devrait battre le record de scènes qui inclut le plus de faux sang. Elle disait que c'était à un tel point qu'elle devait rester dans un bain rempli de sang entre les prises pour rester bien fraîche.
Oh, wow!
Donc, voilà pour ça. On a eu aussi la Paramount qui est venue justement avec Terminator Dark Fate, annonçant par la même occasion que, oui, Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger étaient de retour après le deuxième opus, du moins pour Madame Hamilton. Et on a aussi droit au retour de Edward Furlong. On l'a peut-être oublié, lui, mais c'était un enfant star des années 90 qui avait été popularisé par son rôle de John Connor dans le deuxième Terminator. Une enfance très troublée par la suite. On l'a perdu des salles de cinéma. Il va revenir pour cette suite-là qui prend de plus en plus d'allure de réunion de secondaire avec tous ses anciens acteurs d'une série qui est déjà assez amochée. Mais bien entendu, il y en a d'autres qui étaient là. John Carpenter qui a annoncé deux autres films Halloween qui devraient terminer la franchise Halloween. Kevin Smith qui est venu aussi avec son Jay and Silent Bob reboot qui a l'air de bien vouloir s'amuser de toutes les tendances de Hollywood des dernières années. Du moins, c'est ce qu'était Jay and Silent Bob Strikes Back et ça devrait l'être pour le reboot. Mais bien entendu, au niveau cinéma, ce qui a intéressé tout le monde, c'est l'apparition de Marvel et de son plan pour les prochaines années. Plan qui était...
Ben, tu as dit ce qui a intéressé tout le monde. Moi, Comic-Con, cette année, il n'y a pas de nouvelles.
Ben, c'est ça.
Pas de nouvelles.
Exactement.
Tout a passé dans le beurre.
En fait, parce que je pense que toute la place a été prise par Disney Marvel ou justement aussi des séries télé qui sont de plus en plus présentes. HBO, Netflix qui étaient là pour présenter Amazon Prime.
Mais c'est que... Moi, j'ai l'impression, parce que je veux vraiment rester là-dessus, c'est que j'ai l'impression que le Comic-Con s'est rendu une place, et c'est pas négatif, je critique pas, mais c'est rendu une place où on s'expose en tant que fan, plus qu'on vient chercher de l'information en tant que fan.
Oui,
je pense que les gens vont là pour prendre des photos, faire des autographes et s'exposer en tant qu'en cosplay, beaucoup plus que des gens qui vont prendre de l'information. Les gens sont pas en état d'écoute. Il y a plus de grandes nouvelles qui sortent de là.
Oui, de toute façon, je pense aussi que c'est parce que la plupart des nouvelles, on les apprend quelques jours avant le début du Comic-Con. C'est ça aussi un peu peut-être la... Par exemple, là, on avait appris 2 jours avant le Comic-Con qu'il allait avoir un Thor 4, par exemple. Il y en a tout plein des choses comme ça. Je pense qu'il est justement... plombe un peu l'effet surprise, l'effet punch qu'on peut avoir. Il y en a quelques-uns qui le gardent, bien entendu, comme je disais, Disney, mais vraiment parce qu'en ce moment, ils sont au sommet de l'industrie. Je finis rapidement comme ça, justement, une anecdote.
On a le temps.
Je remarquais l'omniprésence de Disney un peu partout. Bon, bien entendu, ils ont annoncé pour la plateforme de streaming les films qui s'en viennent. Je suis allé voir Le Roi Lion cette semaine. J'étais dans un mégaplex sur la Rive-Sud. 16 salles. Il y en a 9 qui présentaient des films de Disney.
Wow.
Je suis en train de me dire que en fait ma question c'est ça, est-ce que les studios sont pas en train de déserter les salles de cinéma au profit des plateformes de streaming, ont rien à présenter justement à cause de ça? Et ben de plus en plus on se ramasse avec des cinémas Disney. Bref.
Mais c'est ça, c'est juste parce que j'ai l'impression que le Comic-Con, Disney, il n'a pas annoncé grand-chose. Regarde, je vais donner un exemple. Quand il y a des trucs sur les téléphones, mettons une convention Apple, convention Facebook, ça pullule sur mon Windows, whatever. C'est sur mon Facebook, partout, c'est sur tous les réseaux. Mais ça, tout ce que je voyais, c'était des photos en cosplay.
Exact. Oui, c'est tout ce qui reste. Mais bref, le temps nous manque, mesdames et messieurs. On doit vous quitter. On se revoit la semaine prochaine. Bon ciné-brunch.